Bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe. Je suis ici et à chaque rentrée, mon cœur se serre à l'idée que vous ne pourriez plus être là-bas. Ouf, nous aurons encore pour cette année cet espace de liberté où le regard sur le monde et les hommes reste neuf et toujours en recherche. Merci de tenir nos esprits en éveil et surtout continuez. C'est Isabelle à Millau.
Mais ne te dis pas que à cause des gens qui te téléphonent et qui te soutiennent, qui te manifestent du soutien pour ce que tu dis, etc. Ne te dis pas que tu as un pouvoir de conviction sur les gens. Parce qu'il n'y a plus que tes petits copains gauchistes qui t'écoutent aujourd'hui. Il n'y a plus que. Il suffit d'écouter les messages d'ailleurs qui te sont laissés. Les gens qui t'écoutent, c'est que ton petit ramassis de gauchistes. Tous les autres, ils sont partis. Et il y aura bientôt plus que les gauchistes qui t'écouteront, et il y aura même plus une personne d'une opinion différente. Alors ne te fais pas trop d'illusions sur ton pouvoir de conviction.
Salut les ramassis de gauchistes, voilà, c'était deux messages sur le répondeur de la Basse-Fille, 01 56 40 37 37. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de gauchistes, tous les gauchistes de France et de Navarre écoutent cette émission tous les jours. On va voir qu'il y en a quand même, je sais pas si Gargamel qu'on va entendre là est gauchiste. En tout cas aujourd'hui on part pour le désert du Néguev, voir les bédouins du désert. Mais alors voilà Gargamel.
Ouais, salut Daniel, c'est Gargamel, je suis un vieux chauffeur routier. Je déplace un véhicule sur remorque de 40 tonnes, tu vois. Et puis j'écoute ton émission tous les jours avec tes collègues et tout. Avant on avait le gars qui s'occupait des routiers là à la radio, mais il n'y a plus personne maintenant. Est-ce que tu pourrais pas faire une émission sur les routiers un jour et puis prendre un peu notre défense? Je vais t'expliquer ce dont il s'agit très rapidement. On nous oblige, il y a une loi de la réglementation du transport routier qui dit qu'il inculque, on doit passer les AFCOS et les examens spéciaux. Qu'on soit bien tranquille sur la route et qu'on respecte la réglementation. Alors on essaie d'être des gentils routiers, mais alors t'as des grosses entreprises, tu vois, Système U, tout ça, qui nous obligent à charger ou décharger les véhicules. Alors la loi l'interdit, mais ils nous menacent, ils disent ouais, si vous chargez pas, on appelle votre patron, tu vois, ils sont un peu dégueulasses. Alors on va faire un blocage si ça continue, on va bloquer ces grands supermarchés parce qu'ils commencent à nous gaver sérieusement. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, je t'en supplie Daniel, il faut que tu fasses quelque chose. Alors on voudrait écrire, mais voilà, ils vendent actuellement les sur-remorques qui se vendent. Certains ne sont pas équipés avec le ralentisseur, ce qui fait qu'on est de véritables bombes sur les autoroutes et sur les routes. Si on a un problème de frein, on peut pas s'arrêter, surtout dans les descentes, tu vois. Moi, j'ai éclaté deux roues au Champ-Port et c'est pas très drôle. Je suis tombé en panne de frein, je peux dire que c'est pas marrant. Alors, il faut obliger les constructeurs à livrer des tracteurs de sur-remorques avec un ralentisseur efficace. Ça serait bien que tu fasses quelque chose avec nous, que tu nous interroges et puis on te dira des trucs, tu vois. Ça serait bien, ton émission est super, on écoute la plupart du temps, tout le temps. Moi je m'en vais, tu vois, là il est 17h, on est mardi et je m'en vais à Honfleur, voilà. Eh bien à bientôt, c'est Gargamel qui téléphonait de son semi-remorque. Salut Daniel.
Bonjour Daniel, Vincent Marseille, quel bonheur de te retrouver ainsi que ta petite équipe du bon et du sain, ça fait du bien. Je voulais juste faire une petite réaction par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Il se trouve que cet été j'ai été choqué par une info comme quoi deux médecins auraient été condamnés au tribunal pour n'avoir pas, disons, détecté à temps la naissance d'un enfant trisomique, c'est-à-dire l'enfant est né, et donc les parents se sont plaints, et les médecins ont été condamnés à payer, et puis la société également. Il se trouve que, bon, dans un premier temps, je me suis dit, c'est à peu près logique que la société, la sécurité sociale, dédommage ses parents qui donc auront une charge supplémentaire à payer du fait de la naissance de cet enfant et des complications que cela impose. Mais dans la mesure où la société maintenant, par le biais de ce jugement, dit mais les médecins imposent aux médecins une grande vigilance afin que ces enfants ne naissent pas. Là, j'entends autre chose. J'entends eugénisme finalement, puisque par principe de précaution, certains seront peut-être amenés à dire aux parents, mais vous savez, votre enfant est peut-être à 80% ou à 70% trisomique, ce serait souhaitable de l'éliminer. À bientôt.
Oui, j'appelle à propos du sujet sur l'humanité. Donc je ne saurais trop conseiller la lecture des ouvrages de Philip K. Dick, notamment Blade Runner, connu aussi sous le nom « Les androïdes restent-ils de moutons électriques ?» Voilà. Au revoir.
Oui, bonjour, machine répondeur. J'étais en train de lire Michael Moore, « Dégraissez-moi ça, petite balade dans le cauchemar américain », en écoutant la radio. Et j'ai entendu « chevènement » et j'ai entendu « travail ». Famille, nation. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un d'autre, mais d'autres temps, d'autres heures, quoi. Enfin, je sais pas, c'est étrange tout ça, ça nous laisse beaucoup d'imagination, hein, jusqu'aux prochaines élections. Il y a du boulot, hein.
Bonjour, Daniel Marmé, c'est encore Mohamed. En fait, j'ai raccroché et je me suis rendu compte qu'il me restait plus que deux unités. Alors je me disais que j'allais les finir avec vous. Puis je me suis rendu compte que j'ai été bien nerveux dans mes deux messages et je m'en excuse un petit peu. Donc il me reste une unité maintenant et vous voyez, le monde est étrange. Étrange par sa décadence, par son manque d'humanité. Comment on peut expliquer cette abondance d'individus et cette absence de l'homme? Voilà. Je crois qu'il me reste plus d'unité. Monsieur Mermé, je sais pas si ces messages sont stupides ou pas.
Salut, c'est Daniel Mermé. Là-bas, si j'y suis, avec Guy Ventil aujourd'hui.
Flight number 2, arriving from New York.
אז שנהרגים יהודים, היהודים מסתכלים עלינו כאויב,
Chaque fois que des juifs sont tués, ce sont l'ensemble des arabes, qu'ils soient citoyens ou non, qui sont perçus comme des ennemis.
וחלק גדול מהפלסטינאים בגדה ועזה רואים אותנו כמשתפים פעולה עם ישראל.
Mais d'un autre côté, les Palestiniens, la majorité des Palestiniens de Cisjordanie et Gaza nous considèrent comme des collabos avec les Israéliens. On est le cul entre deux chaises.
Le Bédouin et son portable. Le portable du Bédouin.
זה אדמה שלנו אישית. אנחנו גרים עליה. לא אנחנו אלא סבא וסבא גר עליה. והם רוצים שנקשור אותנו בתוך...
בתוך... tous nous concentrer, nous entourer...
200 מטר.
sur 200 מטר. nous mettons tous dans 200 מטר carré.
on veut vous chasser.
כן.
oui, on veut nous chasser. Tête du kamikaze qui tombe aux pieds des enfants. Jérusalem, Tel Aviv, Gaza, Ramallah, pas un jour sans. Attentats, représailles, escalade, implacable, impeccable engrenage, pas un jour sans sang. Mais routine, on s'habitue, la taille des papiers diminue, réduit à compter les points de plus en plus réduits. Pas question de poser d'autres questions en ce moment. Dossier explosif. Tout est piégé, à commencer par les mots. Pression, menace, insulte, chantage. Le moindre article, la moindre émission est scruté, épié, tout est à vif. Les grands démagogues possèdent cet instinct qui éteint la pensée. C'est l'instinct du gourdin qui laisse toute la place à la haine, à la peur, au crachat, au sanglot. Pourtant, en Israël, aujourd'hui, avec Guy Ventil, on va regarder ailleurs, aujourd'hui, un sujet hors sujet, mais qui éclaire drôlement le conflit aujourd'hui. Une heure avec les privés de désert, c'est-à-dire les bédouins. Ah, les bédouins. Chameaux, troupeaux, militante, peuple rude et fier, passion nomade, comme on dit dans les émissions de voyage qui font rêver. Eh ben, c'est un peu fini, les bédouins jolis de Laurence d'Arabie. Au sud d'Israël, le Negev est devenu un désert sans bédouins. Bédouins clochards, bédouins malheureux, bédouins appauvris. La Palestine n'était-elle pas pour les sionistes cette terre sans peuple pour un peuple sans terre ? Sur cette terre-là, pourtant, sur cette terre-là, il y avait un peuple très, très, très ancien, les Bédouins. En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, le désert, ce désert-là, a été déclaré terre d'État. Dépossédés, des milliers de Bédouins ont été chassés par l'armée israélienne, déplacés, regroupés dans des villes, 7 villes au total, des villes un peu comme des réserves. Il fallait dégager, faire de la place pour permettre la colonisation et les implantations juives. Pourtant, une partie des Bédouins a résisté, une partie s'est accrochée au désert, dans des villages bidonvilles, des villages non reconnus, sans eau, sans électricité, une 40aine de villages d'où ils sont régulièrement chassés. Nous sommes des Israéliens de troisième zone, disent ces Bédouins. Israéliens, car ils sont Israéliens. 120 000 dans le Negev, 120 000 dont 70 000 vivent dans ces villages non reconnus, et il y a aussi 60 000 Bédouins qui vivent dans le nord d'Israël depuis le début des années 60. Ailleurs, on appellerait ça ségrégation, voire même purification ethnique. Ces Bédouins font peu parler d'eux, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas de kamikazes. Jusqu'à 18 heures sur Inter, les Bédouins, citoyens à part entière et entièrement à part.
أيها العالم أيها المنصفون إلى ما تنظرون وماذا تنتظرون
الرب جل شفتهم جل العيش
C'est le déjeuner là avec les femmes et les enfants. Ce sont des beaux voiles blancs, des colliers superbes. Tout autour, c'est la désolation. Hein. C'est vraiment un bidonville. Mais alors, dans tous les programmes touristiques pour vers Israël, il y a les Bédouins. C'est-à-dire que vous êtes des figures touristiques.
Oui, on leur montre un show. Voilà, pour les touristes, comment on est censé vivre, mais ça, ils ne voient pas.
Alors, tu soutiens
l'argent en leur montrant. Voilà, on est comme une espèce de zoo.
Oui, c'est un zoo là-bas, vous faites le zoo quand vous êtes les animaux du zoo.
On en regarde et on part.
Voilà, ces Bédouins s'amusent des touristes qu'ils amusent et qu'ils enchantent, un enchantement de cartes postales et d'exotisme de pacotille. En fait, ces Bédouins du désert israélien, du Negev, vivent dans un très très grand dénuement depuis très longtemps, depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948, alors qu'ils sont citoyens israéliens en principe, eh bien leurs droits ne sont pas reconnus, leurs droits, c'est-à-dire leurs revendications sur leur sur ces terres, sur ces territoires où ils habitaient depuis très très longtemps. Quand je dis habiter et qu'on dit bédouin, ben ils n'habitent pas puisqu'ils sont nomades. Mais il faut savoir bien sûr que tous les nomades du monde se déplacent certes, mais à l'intérieur de territoires définis et définis par leur appartenance le plus souvent à telle ou telle tribu. Il y avait ainsi, lors de la création de l'État d'Israël en 1948, un grand nombre de tribus, de bédouins qui vivaient principalement sous des tentes, même si la sédentarisation avait déjà été entreprise, vivant de leurs troupeaux, vivant de leur agriculture. Lors de la création de l'État d'Israël, des villes ont été ils ont été assignés à résidence, si on peut dire, dans des villes, 7 villes au total. Ça n'a pas fait leur affaire. Un certain nombre ont voulu absolument rester dans leur village originel, ceux qui étaient sur les terres de leurs ancêtres. Et depuis 1948, ils s'accrochent aux branches. Il n'y a pas beaucoup de branches dans ce désert. Ils s'accrochent aux planches, aux morceaux de tôle, à 2-3 bouts de tente qui restent encore, et de ces villages ils sont régulièrement chassés, brutalement chassés. En tout cas, ils ne profitent absolument pas des équipements normaux, électricité, eau, route, etc. Ils en sont privés. Ils doivent aller dans ces villes ou nulle part ailleurs. C'est avec ces bédouins qu'on va passer cette heure. Et d'abord dans ce village, un petit village au sud de Beersheba, qui est la capitale un peu du sud, enfin du Negev, et qui est en partie la capitale des bédouins. On va voir qu'il y a d'autres villes, on ira tout à l'heure. Et là, c'est la désolation, tôle, planche, bricolage, misère, désolation. Et là, il y a un homme que nous rencontrons et qui nous explique un peu ce qu'est la vie des bédouins du Negev.
Je suis né avant l'existence d'Israël.
Oh.
Ici.
Comment?
À cet endroit exactement. Déjà à l'époque de mon grand-père, on était sédentarisé à cet endroit-là. Donc ce village est depuis très longtemps.
Alors, vous êtes bédouin?
Bédouin.
Sûrement bédouin.
Et de quoi vous viviez? Qu'est-ce que vous aviez comme activité?
Mais Adama.
De la terre. On était avec
Adama, mais Fassim.
Et des troupeaux. Aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible.
Le
gouvernement veut nous mettre la corde au cou et nous mettre tous ensemble.
Nous
concentrer tous ensemble, et nous, c'est pas du tout notre envie. Mon grand-père est né ici, mon père est né ici. Moi, je suis né ici. Mes enfants sont nés ici. Et le gouvernement ne veut pas qu'on continue à vivre comme ça ici.
Il y a des pressions contre vous?
Oui, moi j'avais construit ici, vous voyez ça.
Ouais.
Moi qui les ai construits. Et ils ont amené un bulldozer et ils ont tout détruit. Alors on a dit, on va faire ça, au moins ça, ils peuvent pas
détruire.
Ben ça c'est quoi? C'est quelques planches, des bouts de bois, une bâche, un toit en tôle bricolé. Ça c'est votre maison?
Ça
c'est ma maison.
La terre nous
appartient. On vit sur notre propre terre. Elle a toujours été à nous depuis des générations.
Mais
ils veulent tous nous concentrer, nous entourer sur 200 mètres, nous mettre tous dans 200 mètres carrés.
On veut vous chasser.
Oui, on veut nous chasser.
Et on veut que vous alliez, vous rejoigniez une des villes
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Ani le fini shou yavo, ani nimtsa po.
Moi je suis là bien avant qu'il soit venu, mais c'est lui qui fixe. Le fini
shou yavo me bkhous.
Bien avant qu'il vienne de dehors. D'où je sais pas d'où il vient.
Ani nimtsa po.
Moi je suis là.
Bouba, vekim tamdina.
Et il vient, il a créé un état.
Santi ta bayt po.
Moi j'ai construit ma maison, il me dit non.
Karos.
Détruit.
Qu'est-ce que vous avez comme titre de propriété sur ces terres ici?
Oui, on a un kushan, c'est un titre de propriété de l'époque turque.
Ah, ouais, mais est-ce que c'est reconnu par la juridiction israélienne?
Il dit même s'il le reconnaît formellement, il veut rien en savoir. Même si c'est vrai, ils savent que c'est vrai et que ses papiers sont en règle.
הם לא מכירים לנו באדמה, אבל כשאתה רוצה למכור את האדמה, הם מכירים וקונים ממך את זה.
Ils ne reconnaissent pas ta propriété, par contre, ils te demandent de le leur vendre, et ça, ils sont prêts à te l'acheter.
כשאתה מוכר, מכירים, אבל
תגיד אני... C'est-à-dire, ils reconnaissent ton propriété qu'au moment où tu es prêt à leur vendre.
גם כן, המדינה, היא רואה את האדמה כנכס הכי יקר.
Considère la terre comme le bien le plus important.
אז היא רוצה לשמור את כל האדמות האלה לעולים חדשים,
pour des nouveaux immigrants,
להתיישבות יהודית,
pour la colonisation juive.
והם עושים סטרטגיה,
ils ont une stratégie,
לרכז מקסימום תושבים ערבים,
de concentrer le maximum d'arabes sur le moins de territoire possible.
ומינימום יהודים על מקסימום שטח.
Et au contraire, un minimum de juifs sur un maximum d'espace.
במיוחד בנגב,
surtout dans le Negev.
אבל למה? הם למשל, מה ההבדל בין יהודי לערבי?
Mais quelle est la différence entre juif et arabe?
מה ההבדל?
Pourquoi est-ce qu'il y a une différence?
הגג של הבית שלך במגרשים הוא לא שלך. למה? הצבא רוצה את זה.
De toi, de ta propre maison n'est pas à toi parce que l'armée le veut.
מחכים.
Alors on attend.
Mais vous attendez quoi?
שאלוהים יהפוך את המצב, או ככה, או ככה.
Que Dieu renverse la situation, ou dans ce côté, ou dans l'autre.
Oui, il y a plus que Dieu qui peut vous sortir de là.
חיים בקושי. אבל מה, בכל זאת, אדמה אנחנו לא נוותר.
On vit avec beaucoup de difficultés, mais il y a une chose qui est sûre, on ne renoncera pas à notre terre ici.
אדמה לא נוותר.
On ne renoncera pas à notre terre, c'est la nôtre, elle est à nous.
En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, les Bédouins, je ne sais pas si c'est tous, mais en tous les cas, on va dire une majorité de Bédouins, ont reçu des cartes d'identité israélienne. J'ai raconté comment ils ont été chassés, comment les terres ont été confisquées, comment ils ont... cette tentative de les regrouper dans des villes. Et en 1960, comme ils protestaient, Ben Gourion a promis que les terres, leur seraient rendues une fois la paix établie avec les Arabes. C'est pas le cas, c'est toujours pas le cas. Et donc, les Bédouins attendent toujours. Ils risquent d'attendre longtemps, parce que là, on est devant une contradiction. C'est la contradiction, ou c'est l'une des contradictions majeures qui est à la base de cet État d'Israël. On va rencontrer Atiya, qui est coordinateur pour le Negev de l'Association des Villages Non Reconnus. Donc une association des gens qui défendent leurs droits, des citoyens qui défendent leur roi, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle de la démocratie. Seulement, il y a bien peu de chances que les Bédouins obtiennent gain de cause, parce que il faut savoir que le sol, la terre israélienne, est entre les mains de l'administration des terres d'Israël, et que ces terres d'Israël appartiennent à l'État israélien, qui est un État juif. Et il faut que les terres appartiennent à des juifs. Or, les Bédouins ne sont pas juifs. Ils sont citoyens israéliens, mais ils ne sont pas juifs. Et donc, leur revendication de terres, de propriétés, de droits sur les terres, a très peu de chances d'aboutir. On est en pleine contradiction et on écoute Atiya.
Les Bédouins Les Bédouins
étaient représentés avant 1948 100 à 120 000 personnes dans le sud du pays, le Negev.
C'est-à-dire avant la création de l'État d'Israël.
Entre Kiryat Gat, un peu plus au nord d'Ashkelon, jusqu'à Eilat, sur la mer Rouge.
מספר הבדואים לפני 48 היה בין 100,000 ל-110,000 ואז אחרי שקמה המדינה, המדינה גרשה 90,000 מהתושבים הבדואים ויותר.
90 000 d'entre eux ont été expulsés avec et après la création de l'État d'Israël, hors des frontières d'Israël.
ואז נשאר אחרי קום המדינה רק 10,000 תושבים בדואים.
Il ne restait donc un peu plus de 10 000 bédouins.
ונשאר להם הקרקע שלהם מה-13 מיליון דונם רק 2.5% מכלל השטח שלהם.
Et en terme d'espace qu'ils contrôlaient, puisqu'ils contrôlaient un espace immense qui faisait 1,3 million hectares de terre, qui est en fait toute la partie sud du pays dans lequel ils avaient le droit, ils avaient un droit de propriété ou un droit d'utilisation, il ne restait que 2.5%.
Est-ce que les Bédouins sont résistés, sont organisés, ont organisé une résistance à cette époque-là?
Contrairement au reste du pays, comme en Galilée par exemple, où il y a eu tout de suite des organisations de résistance, les Bédouins ne se sont pas organisés.
מדינת ישראל רכזה את הבדואים בשנות ה-50 באזור הסייק, זה משולש באר שבע, ערד, דימונה.
Dès la création de l'État d'Israël, les Bédouins ont été concentrés par les autorités dans un triangle qu'on appelle le triangle Saïk, qui se trouve entre la ville de Be'er Sheva, où nous nous trouvons actuellement, Arad et Dimona.
Et
ce qui s'est fait, c'est que les Bédouins, donc refoulés dans cette région, ont construit des villages, aux côtés des villages qui existaient déjà dans cette région.
אז התושבים הבדואים התרחבו, מספר התושבים הבדואים מגיע ל-120,000.
Aujourd'hui, on en est à 120 000 bédouins.
חלק מהם גר בכפרים לא מוכרים, וחלק גר בריכוזים מוכרים שהמדינה אישרה להם.
Une partie vit dans des localités reconnues par le gouvernement et qui ont donc un minimum d'infrastructure, et une partie dans des, ce qu'on appelle des villages non reconnus.
Alors, qu'est-ce que c'est exactement des villages non reconnus?
כפר לא מוכר הוא...
Un village non reconnu, c'est un village
qui
n'a pas un statut municipal.
Il n'a ni un
conseil municipal, il n'appartient pas à un conseil régional, il n'a aucune forme d'expression juridique. Donc le gouvernement ne reconnaît pas cette entité, donc empêche, ne peut pas autoriser la création d'infrastructures.
אין בו רשת חשמל,
אלקטריסיטי,
אין בו רשת מים,
או,
אין בו שירות בריאות,
או כאן סרוויס מדיקל,
גם כן אין בו בתוכו שירות חינוך.
בכל?
זאת אומרת...
Mais comment c'est possible qu'il existe des villages, il existe des villages qui n'existent pas?
הכפרים הם הכפרים של בדואים, הבדואים שהיו לפני קום המדינה.
Les Bédouins qui habitaient ailleurs et qui ont été refoulés se sont installés et ont créé petit à petit un village.
הכפרים קיימים ונמצאים ואנשים חיים
שם. אבל
המדינה לא רוצה.
Mais l'État ne reconnaît pas.
Vous avez une citoyenneté israélienne, vous avez des droits et des devoirs israéliens.
כן, הם הזכויות הם החובות, אבל הזכויות אני לא מקבל.
Il y avait des droits et devoirs, sauf que les droits je les ai pas.
יש 70,000.
Il y a 70,000.
בדואים בכפרים הלא מוכרים.
Bédouins qui sont concentrés dans les villages non reconnus, dans les 50 villages non reconnus. Mais quelle est la différence entre un juif et un arabe? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence?
A gag chez la baie de Shelcha, dans ma grachim, ou l'eau Shelcha. Lama, à savoir, à tsaïdze.
Le toit de ta propre maison n'est pas à toi parce que l'armée le veut.
Mais Hakim.
Alors on attend.
Mais vous attendez quoi?
Que Dieu renverse ta situation, ou dans ce côté, ou dans l'autre.
Oui, il n'y a plus que Dieu qui peut vous sortir de là.
Ouais.
quand les bédouins du désert du Negev en Israël disent qu'ils sont des citoyens de troisième catégorie, quelles sont les catégories qui passent avant? Ben, il y a évidemment les Israéliens, mais ça c'est la première catégorie, évidemment. Dans ces Israéliens, la deuxième catégorie, à leurs yeux, c'est le million d'Arabes israéliens. Qui sont israéliens, mais qui sont des Arabes. Et puis, en troisième lieu, troisième classe, il y a ces bédouins qui disent on a le cul entre deux chaises. Pourquoi? Parce que ils sont pas toujours très très bien considérés par les autres Arabes israéliens ou par les Palestiniens. Un certain nombre d'entre eux s'engagent volontairement dans l'armée. Je sais pas exactement quel pourcentage, mais enfin ils ont en tous les cas cette réputation d'être de hardis militaires, zélés, notamment comme éclaireur ou comme pisteur, un petit côté harki qui évidemment les déconsidère un peu aux yeux des Palestiniens concentrés dans les territoires. La grande hantise dans cette région du monde, notamment pour les Israéliens, c'est la démographie. Il y a ce qu'on appelle le djihad des berceaux, c'est-à-dire des taux de natalité très importantes dans les familles des territoires, des Palestiniens des territoires, et aussi du côté des Bédouins. Description de l'histoire de cette discrimination par Atiya de l'association des villages non reconnus.
Le taux de natalité des Bédouins est le plus haut du monde. Et il faut évidemment rappeler que pendant toute la période qui suit la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, dans le Negev, l'État a construit des dizaines d'implantations juives, de localités juives, des moshavs, des kibbutzim, des villes. Alors, d'un côté, la croissance naturelle de la population bédouine, et de l'autre côté, les besoins contradictoires, les besoins de nouvelles localités juives provoquaient un problème d'espace. Et la politique du gouvernement a été de réduire, de les confiner de plus en plus dans des endroits limités.
ואז חלק נכנס בכפרים האלה, אבל הכפרים האלה רק מיועדים שאנשים ישנו שם, אין אזורי תעשייה, אין ביטוח, אין מתקני ספורט, אין שום דבר, רק אנשים יושנים והולכים בבוקר לעבוד בעיירות היהודיות מסביב.
Sont des villes dortoir ou des lieux dortoir. Il n'y a rien, il n'y a aucune infrastructure, aucune industrie, aucun travail, aucune infrastructure sociale. Il n'y a rien, les gens dorment là-bas et vont travailler après dans les localités juives des alentours.
Quel genre de travail pour les Bédouins?
En général, un travail manuel. La construction. Jardinage, l'aménagement des routes. Chauffeur.
Et militaires aussi.
Une petite minorité va à l'armée. Parce que le service militaire n'est pas obligatoire pour les Bédouins.
Et pour quelle raison?
Parce
que l'État ne fait pas confiance aux Arabes en général et aux Bédouins en particulier.
Okay. Vous n'êtes pas digne de faire le service militaire.
Nous sommes palestiniens, ça il ne faut pas l'oublier. Nous faisons partie du peuple palestinien.
Et
cet État est en guerre avec le peuple palestinien. Si on était soldat, on devrait combattre pour notre pays, contre notre peuple. Et d'ailleurs, beaucoup de Bédouins qui voudraient aller à l'armée sont rejetés par l'armée. Parce qu'on a le droit d'être volontaire, mais beaucoup sont rejetés.
Leur situation est drôlement inconfortable actuellement.
Ceux qui font leur service militaire sont dans une situation difficile. Et il y a parmi les bédouins un petit nombre de jeunes bédouins qui, parce que c'est une façon de faire carrière, une façon de trouver un boulot, se portent volontaires à l'armée. Mais ça reste absolument marginal.
Ils préparent des avenirs de harkis, ceux-là.
Tout à fait, c'est des harkis. Ou le contraire, parce qu'avec les bédouins, ce qui s'est passé, en fait, malgré 50 ans de service militaire obligatoire, et la grande majorité à l'époque faisait leur service militaire, ils se sont trouvés dans une situation qui était d'être victimes des deux côtés. C'est-à-dire, du côté arabe, ils étaient un peu considérés comme des traîtres, comme des harkis, parce qu'ils faisaient leur service militaire, et du côté israélien, ils restaient des arabes, et on leur expropriait leur terre, pas moins qu'on expropriait la terre des autres arabes. Ils étaient soumis à la répression, pas moins, et ils n'avaient pas beaucoup plus de facilité de trouver du boulot. La plupart des boulots qui étaient fermés aux Arabes étaient fermés aussi aux Arabes bédouins.
Il y a des bédouins qui veulent essayer de s'intégrer, de s'assimiler dans la société israélienne,
devenir des citoyens comme tout le monde, mais l'État ne leur permet pas cela. Donc on est citoyens, mais dans la mise en œuvre des plans politiques et des lois même, il y a une grande discrimination.
Et vous votez de plein droit.
Oui,
on a le droit de vote, oui.
Et en fait, l'État se souvient de nous, nous qui habitons les villages non reconnus, au moment des élections. Chaque parti nous fait à ce moment-là la cour pour essayer de gagner nos voix.
يا بابر شابر بدر يا بابر شابر بدر وصلنا حابب بلي يا علي بلي خايف انها ما يدري خايف انها ما يدري دمع الخدم يجري بلي يا علي بلي الهوى طير شعرها الهوى طير شعرها والسمع ريح الفرها بلي يا عين بلي هيدي للبدو على جمان قومت نوح.
Ça, c'est la musique bédouine, donc qui date de très longtemps. Autour de cette musique, il servait le café et donc il passait les veillées comme ça le soir après une journée de travail. Servait le café et serrait-le aux autres, c'est comme ça qu'ils chantaient les chanteurs. Donc avec cet instrument qui s'appelle... Ça s'appelle le rubaba. Donc c'est un instrument monocorde. Donc elle est fabriquée manuellement avec du bois d'olive et du crin et également de la peau du mouton.
Des instruments de musique en voie de disparition, des chants et une culture en voie de disparition, la culture des bédouins. C'est vrai que en général, dans le monde, les nomades sont pourchassés et ont été contraints la plupart du temps à se sédentariser, et ça c'est un peu général à toutes les cultures. Mais ici, dans le Negev, en Israël, donc on est en Israël, cette sédentarisation a pris un tour particulier, elle a été suivie de ce véritable apartheid, c'est-à-dire qu'on a contraint, l'État d'Israël a contraint les Bédouins à habiter des villes, sept villes, des villes réserves, vivre dans des réserves de façon à dégager le maximum de territoire à des fins de colonisation et d'implantation. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de place parce que on s'est pas toujours précipité pour s'implanter et s'installer dans ces régions. Et alors donc, c'est, il y a un parc naturel, voilà. Donc ça justifie une certaine vacuité des terrains. Ou bien alors, c'est occupé par l'armée. Ou bien il y a effectivement des implantations juives qui sur ces espaces, sur ces territoires, sur ces sols, on va dire. Et alors, le contraste est évidemment extraordinaire entre ces implantations qui sont bien aménagées, avec des équipements, éclairage, électricité, eau, c'est verdoyant. Et puis ces pauvres, c'est vraiment un des contrastes incroyables, de caricature, ces pauvres villages bédouins, où les bédouins s'agrippent, alors que c'est interdit, en principe. Enfin, le principe, c'est la loi, autant que les lois puissent là être vues comme des principes. C'est des villages non reconnus, et vous avez entendu ceux qui se battent, cette association basée à Beersheba, qui se battent pour la reconnaissance de ces villages. Nous voici dans un de ces villages, où un habitant, un vieux bédouin, vous explique la situation.
Alors vous êtes 70 000 dans cette situation à vivre dans des bidonvilles, et qui sont vos villages d'origine, comme c'est le cas de ce monsieur. Lui, c'est son village d'origine, mais son village d'origine est devenu un bidonville qui n'est pas reconnu par l'administration israélienne.
Et
de jour en jour, les problèmes se multiplient. Parce que les besoins augmentent, parce que la croissance naturelle est grande.
L'accroissement démographique. Vous avez beaucoup d'enfants. Voilà deux, juste.
Oui, il y a beaucoup d'enfants. On a une démographie problématique. C'est environ, la moyenne est 8 enfants par famille.
Combien vous avez d'enfants, vous, par exemple?
9.
Vous, combien d'enfants?
7.
Oui.
Parce que les gens sont sans travail, au chômage. L'État n'a rien fait pour qu'il y ait une éducation.
Alors,
l'homme est toujours avec sa femme, ils font des enfants.
C'est le djihad des berceaux.
Moi, j'ai 16 enfants.
16?
16 Israël. Enfants.
8 garçons, 8 filles.
Et voilà tous les petits-enfants, tiens. Alors, pour vous, c'est clair. Pour vous, c'est très clair. On veut vous chasser, on vous chasse. On veut vous concentrer sur certains points. On veut vous déposséder de vos terres et de votre territoire, de façon à mettre à votre place des bons Israéliens.
Oui. Nous, on est des Israéliens de troisième zone, de troisième classe. On voit avec les colonies, par exemple, il suffit deux caravanes avec deux ou trois familles et on en fait une localité avec toute l'infrastructure nécessaire. Mais ici, tu as 500 familles, 400 familles et on ne reconnaît pas qu'ils sont une entité. Même si on était là avant même la création de l'État d'Israël. C'est comme ils créent des nouvelles localités, des nouveaux villages pour les Juifs. Ce que nous demandons, c'est qu'ils nous aident à construire notre village. On est des milliers ici, là où nous nous trouvons.
C'est des favelas dans le désert, quoi. Hein, c'est des favelas du désert. Ils se débrouillent avec des bouts de tôle sous ce soleil énorme, là. Des morceaux de tôle, des bouts de ferraille, des morceaux de sommier, 3-4 parpaings.
On va marcher un peu?
Ouais.
Au revoir.
Bonne chance, bonne santé.
C'est
C'est vrai que là, on voit vraiment très très clairement la ségrégation, une situation d'apartheid. On n'a pas besoin d'explications extraordinaires. Là, à gauche de la route, on a un village juif avec 130 familles et tout est vert et tout est, il y a de la lumière, il y a des réverbères, enfin tout est parfait. Et de l'autre côté ici, du côté où nous sommes, du côté bédouin, c'est le bidonville, c'est la favela.
זה הצינור, אתה רואה את הצינור למטה יורד, זה לא הולך למושב, מ-30 משפחות, אתה רואה את הצינור שלנו.
Alors, on voit très bien. La grosseur du tuyau qui mène l'eau aux 130 familles là-bas, et le petit tuyau qui mène
l'eau. Oui, c'est caricatural. Que le bilan.
Tu vois,
le
même
électricité.
Le Hachmal, c'est le Mouchard.
L'électricité va vers la gauche, vers le village arabe. Et à moins de 100 mètres du même pylône, il n'y a pas d'électricité chez nous. Et cette petite route, elle a été faite par une cotisation des villageois, chacun a payé 50 shekels pour construire la route
nous-mêmes. Et
même au niveau de la route qui est entre nous et le village, la route principale entre nous et le village juif, du côté du village juif, il y a un pointillé pour qu'ils puissent traverser de l'autre côté. Mais nous, c'est comme si nous n'existions pas. Il n'y a pas de pointillé et nous sommes obligés d'aller à droite et faire un tournant après plusieurs kilomètres.
Vous n'existez pas.
Si on se
fait prendre à traverser pour aller à Beer Sheva, à traverser donc la ligne continue, on paye 700 shekels d'amende.
Ce qui se passe, c'est que la ville... לא מסמנת אותנו על המפה. אז כשמתכננים,
זה כבישי. L'État ne nous reconnaît pas, nous n'existons pas sur la carte. Donc la planification des routes, par exemple, et toute planification régionale ou nationale,
se
fait comme si nous n'existions pas, puisque nous n'existons pas sur la carte. Il n'y a personne. On n'est pas là, mais on est quand même 70 000, mais on n'est pas là.
Ils résistent, ils tiennent.
Et ils ont quand même obtenu, surtout dans le Nord, la reconnaissance de pas mal d'entre eux.
Ils ont obtenu qu'on reconnaisse qu'ils sont des villages non reconnus.
Et qu'ils vont être reconnus, mais à condition que les autres acceptent de se démanteler. Alors donc, on crée une division.
Ah oui, bien sûr.
Entre ceux qui vont être reconnus et les autres qui... Ouais.
C'est des petits Oslo. Ouais. Des petits Oslo qui peuvent faire comprendre que les Palestiniens puissent être un peu perplexes ou peuvent manquer un peu de confiance avec leurs interlocuteurs israéliens lorsqu'ils en avaient. Une discrimination, une ségrégation, une politique d'apartheid, c'est le sort des Bédouins du Negev depuis plus d'un demi-siècle. Ils végètent, ils vivent dans cette situation, bidonville pour 70 000 d'entre eux. Il faudra évoquer aussi les 60 000 qui vivent au nord d'Israël et qui, à la suite d'une sécheresse au début des années 60, sont montés s'installer au nord de l'Israël. Mais là, pour l'instant, nous sommes dans le Negev. Alors, certains vivent encore sous des tentes, ils bougent pas beaucoup, bougent guère, mais enfin c'est encore des tentes, on vous reçoit sous la tente, on en remonte les parois de toile, on vous sert le thé, il y a un petit foyer, enfin ça rappelle encore cette vie enchanteresse et qui a nourri tant de reportages et de romans. Il faut dire que les Bédouins vivent, les Bédouins c'est un peu sans frontières, ils inventent le sans frontiérisme avant la lettre, et ils vivent en Jordanie où ils ont une destinée tout à fait différente, mais on les trouve aussi en Syrie, enfin dans tout ce Moyen-Orient. Alors voilà une rencontre avec un de ces Bédouins sous sa tente.
Depuis très longtemps déjà, les Bédouins, avant l'État d'Israël, étaient sédentarisés. Mais l'État
essaie
de faire passer dans l'opinion publique israélienne et à travers le monde que c'est des nomades. Donc ils n'ont aucun attachement à la terre.
Ils
n'ont aucun intérêt à la terre, ne leur appartient pas, ils se promènent. Mais même lorsqu'il vivait dans une tente, le bédouin était attaché à un endroit. Et chacun sait où exactement est son territoire, quelles sont les limites et où commence le territoire de l'autre. Chaque tribu sait exactement où se termine son domaine et où commence le domaine de la tribu voisine. Et chaque famille dans la tribu sait aussi quelles sont les limites de son espace et de son territoire par rapport aux autres familles. Et chaque famille dans la famille élargie sait aussi quelle est sa part. On n'a jamais pu imaginer que ce système qui durait depuis des générations allait être remis en question.
C'est extraordinaire. Le portable marche partout, même sous la tente du bédouin. Dans le village non reconnu, le portable marche. Alors nous voilà à Rahat. Rahat, c'est une de ces villes où les Bédouins sont majoritaires, ont été contraints, poussés à s'installer. Et c'est une rencontre avec le maire de cette ville de Rahat qui s'appelle Gomay Kazi, qui est donc israélien, qui est un élu et qui explique, mais alors vraiment vertement, j'espère qu'on aura le temps d'entendre complètement la situation. Monsieur Gomay Kazi, vous êtes le maire de la ville de Rahat et qui est un peu la capitale des Bédouins au fond, hein. Et pour illustrer ce que vous dites, c'est-à-dire la discrimination qui peut exister vis-à-vis de la population des Bédouins du Néguev. Dans votre ville de Rahat, vous avez 33 000 habitants et vous disposez d'un budget de 97 millions de shekels. Or, à côté d'ici, il y a une ville juive qui s'appelle Ofakim, qui compte 22 000 habitants, c'est-à-dire 11 000 habitants de moins, et qui dispose d'un budget de 160 millions, c'est-à-dire 70 millions de shekels de plus. Une discrimination contre laquelle nous nous battons. Tu as vu le Negev. Il y a 60% de la population. De la population bédouine du Negev n'est même pas reconnue par Israël. Ils n'ont ni école, ni jardin d'enfants, ni clinique, ni rien. Même de l'eau, pas d'électricité. Et nous sommes dans le troisième millénaire. Je suis un citoyen d'État d'Israël. Je veux mes droits, les droits qui me reviennent en tant que citoyen. Si je ne reçois pas mes droits comme je veux, alors j'ai le droit de les prendre.
Dans le cadre de la démocratie israélienne, vous dites la seule démocratie du Moyen-Orient. Pour vous, Israël, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient.
Oui, je suis un citoyen israélien, je veux agir en tant que citoyen israélien, oui.
אבל הדמוקרטיה של מדינת ישראל היא מוקנית רק לאוכלוסייה היהודית
רזרבי על הפופולציה היהודית ופה על
הפופולציה הערבית במדינת ישראל מדינת
ישראל
והמדינאים של מדינת ישראל רואים בנו גייס חמישי במדינת ישראל
לבדואים se défendent dans le Negev. Merci à tous, merci à Michel Warchavski, à l'association Atia, Jacques Nénot, montage Guy Vanti, les techniques aujourd'hui Étienne Mishka et Gaëtan Colli, assistant Joël Levet, Antoine Dabrowski et Christophe Imbert, ça fait du monde, réalisation Bruno Carpentier et Antoine Chao, le répondeur de la Basse Jésus, c'est le 01 56 40 37 37, on se retrouve demain à 17h pour la Basse Jésus, je vous souhaite une bonne soirée, je vous laisse pour le journal avec Claire Servagent, salut.